L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor. Transistor, c'est le nouveau nom de Radio Évasion. À midi, c'est en direct, c'est en rediffusion à 18h. Et on s'en va au bord de la mer, sur le littoral. Littoral, passé, futur de la Bretagne du 15e au 21e siècle. C'est le titre de l'ouvrage qui sert de socle à cette émission. Mais il est si riche qu'on pourrait faire des milliers d'émissions autour. L'éditeur, c'est le CRBC, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Pour le passé du littoral breton, le livre remonte donc au 15e siècle avec Gérard Le Bouédec, qui est professeur émérite d'histoire maritime et spécialiste de l'histoire des ports et des arsenaux français au 18e et 19e siècle. Il y a Olivier Corr, qui est historien, qui a réalisé les cartes de l'ouvrage. Et pour le futur, avec nous dans ce studio, c'est plutôt Yves-Marie Paulet, biologiste et écologue marin, enseignant-chercheur à l'IUEM, Institut universitaire d'études marines, rattaché à l'UBO, Université de Bretagne occidentale. Bonjour.
Bonjour.
Donc, il faut nous expliquer déjà ce que c'est ce titre un peu intrigant, Littoral, passé, futur. C'est surtout ça qui demande explication.
Eh bien... Le titre est né secondairement par rapport au travail qu'on a lancé avec Gérard Le Bouédec. C'était d'abord une réflexion sur... D'abord Gérard Le Bouédec m'a demandé de relire et de critiquer quelques pages qu'il avait écrites sur une synthèse sur les littoraux bretons. Et puis de commentaires, de discussions en discussion autour de ces quelques pages, il m'a dit « Mais allons-y, écrivons un ouvrage ». Et donc, je suis quelqu'un des temps modernes, je dirais, d'aujourd'hui. Et donc, on a réfléchi à cette idée de faire de cet ouvrage une ouverture vers demain, avec cette idée que l'observation aujourd'hui du littoral breton nous met à un point particulier d'une trajectoire. Et penser un futur à partir de ce point n'est absolument pas suffisant. Il faut comprendre comment ce point s'est construit. Donc, on est parti sur cette idée de passé-futur. C'est aussi une réflexion qui vient d'une autrice dont on parle dans notre introduction, qui s'appelle Anne Weber, qui est une philosophe qui démontre clairement comment finalement l'histoire est toujours en mouvement et que si on imagine que l'histoire est une sorte de chaîne immobile et seule la dernière bouge encore, c'est pas vrai du tout. Dès qu'on bouge la dernière, tout se met à bouger. Et c'est ça un peu cette idée passé-futur.
On revisite toujours le passé en fait, en regardant le présent et en imaginant le futur. Et puis c'est vrai qu'on peut pas imaginer le futur sans retenir quelques leçons du passé. Enfin là, on apprend beaucoup de choses dans
tout
ce livre.
Tout à fait. Et puis il y avait aussi cette idée de... que ce soit les élus, que ce soit ceux qui nous visitent en Bretagne, que ce soit les étudiants, l'épaisseur historique du littoral, elle est rarement clairement posée. Et des décisions ou des façons d'appréhender un paysage nécessitent, nous le pensions, nous avons cette ambition, d'apporter cette épaisseur du passé dans le regard que l'on porte aujourd'hui sur les littoraux.
Ouais, surtout qu'on va découvrir que finalement, notre regard sur le littoral, il a changé très très récemment. Cette notion... Alors, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que même si c'est histoire, biologie, écologie, mais en fait, et toutes les disciplines sont un peu représentées.
Oui, je crois qu'on a vraiment convoqué toutes les disciplines, enfin dans le champ du possible, c'est-à-dire de nos capacités intellectuelles, mais... Bon, Gérard Le Bouédec, d'une culture tout à fait extraordinaire, hein, des histoires littorales et du maritime. Personnellement, si je suis plutôt des sciences naturelles de la mer, mes fonctions, mes intérêts m'ont ouvert à énormément de disciplines. Donc je suis peut-être un peu généraliste des choses de la mer, avec une spécialité qui est celle de fonctionnement des systèmes vivants maritimes. Donc on a réussi à... Bon, tout n'y est pas, évidemment, mais je crois qu'on couvre pas mal de champs disciplinaires.
Et moi, je trouvais qu'il y avait un prisme économique particulièrement important. Mais c'est vrai que éco, ça veut dire logis, habitat. Hein, donc, c'est
oui,
ça.
Oui, l'économie, évidemment, on ne peut pas comprendre les vagues successives d'usage de la mer, de peuplement, de société, sans parler de l'économie, effectivement, qui est à la base de tout ça.
Oui, parce que le livre, il parle bien des relations des humains avec le littoral. Est-ce qu'on peut définir le littoral tel qu'il est entendu dans l'ouvrage ?
Alors, oui, en fait, le mot littoral, alors c'était, pour moi, je ne dirais pas que c'était une découverte, mais ce n'est pas du tout un terme des sciences naturelles. C'est vraiment un terme de géographe. C'est-à-dire que moi, je viens des sciences de la mer, c'est ma formation, c'est l'eau salée quand même, mon travail. La partie, on ne parle pas du littoral, on parle de côte, on parle d'eau côtière, mais on parle... Et en fait, bon, là, on l'a englobé assez de manière ouverte. On s'aperçoit en lisant l'ouvrage que le littoral est finalement, il remonte très très haut. Parce que les apports de la mer sur les sols agricole, par exemple, ça va à des dizaines de kilomètres à l'intérieur. Et puis vers le large, bah, le littoral, ça peut être une zone... Bon, il y a un littoral évident, c'est la zone où la mer se retire, tout ce qui est pêche à pied, etc. Il y a un rapport
très fort. L'estran, n'est-ce pas ?
Mais on va plus loin, on va sur les eaux côtières, les espèces migratrices qui passent sur nos côtes, etc. Donc c'est un littoral assez ouvert, on va de l'avant-côte jusqu'à la terre, encore sous influence terrestre. À un tel point que nous, notre considération, c'est que la Bretagne est tout entière maritime.
On est, je suis assez d'accord.
On est toujours assez près de la mer, et on a toujours une rivière qui ne vient pas loin, qui nous rappelle que même au centre de la Bretagne, on peut voir la marée. Les marées montées, les marées descendent. Donc, on est tout entier maritime.
C'est ça, avec tous nos petits fleuves. Enfin, peut-être que les Rennais ont moins ce prisme maritime, mais bon...
Oui, probablement que les Rennais ont un peu moins. Mais les canaux permettaient de remonter du sable coquillé qui venait de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'en Ille-et-Vilaine et au profond de l'Ille-et-Vilaine agricole. Donc, ça va loin.
Alors justement, parlons des ressources, puisqu'on est sur les ressources. Elles sont animales, minérales, végétales. Enfin, minérales, bon, c'était notamment le merle, le sel. Les poissons. Les poissons, il y a eu des pêcheries, par exemple, pendant longtemps. Moi, je me demandais quand est-ce qu'elles ont disparu, ces pêcheries ? Parce qu'il n'y en a plus, là.
Non, alors, les pêcheries en Bretagne, d'abord, on a fait des grandes découvertes récentes. On s'est aperçu qu'il y avait des très, très anciennes pêcheries. En fait... les données de l'observation sous-marine, notamment avec des outils très sophistiqués, hein, les sondeurs multifaisceaux qui permettent de faire des cartographies très fines, nous ont permis de dater des structures en pierre, des murs sous l'eau, qui, de par leur position bathymétrique, leur position en profondeur, datent forcément d'il y a des milliers d'années.
Donc l'idée d'une pêcherie, c'est d'emprisonner les poissons à marée basse. Hein, c'est
une pêcherie, on crée un mur sur lequel probablement on mettait des structures en bois, en fagot, mais il y a un mur à la base... qui, lorsque la marée est basse, permet de recueillir du poisson piégé. Donc on s'aperçoit que ça commence il y a très très longtemps, ça va durer sans arrêt jusqu'aux périodes assez récentes, évidemment au Moyen-Âge, on a de nombreuses pêcheries, et des pêcheries qui ont été encore usitées de manière importante jusqu'au XIXe siècle. Donc, alors, si on va même dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui sort un peu du scope de notre travail, mais si on s'intéresse à ça, on s'aperçoit qu'il y a des pêcheries en bois, faites de pieux, qui ont fonctionné encore au XXe siècle. Donc, attraper le poisson en le piégeant, c'est une très très longue histoire en Bretagne.
Et on est sûr que c'est des pêcheries, que ce n'est pas des élevages.
Très bonne question. Alors, de par leur emplacement, on s'aperçoit que c'est vraiment des pièges. Hein. Mais les questions d'élevage, il y a des structures qui ressemblent à des espèces de viviers, des choses comme ça. Peut-être pas de l'élevage, mais au moins conserver la ressource vivante, par exemple. Et ça, c'est des choses que les archéologues commencent à nous expliquer.
Et alors ça, c'est arrêté, les pêcheries. Et la question, c'est pourquoi... Enfin, moi, c'est la question que je pose à l'écologue, là. Et c'est parce qu'il n'y avait plus assez de ressources ou pas ?
Alors, je pense que c'est une des motivations principales. Quand les technologies se développent, que ce soit les engins de pêche, que ce soit les bateaux pour aller vite et plus loin, etc., les rendements de production, on va dire, sont tout de suite plus importants. Quoi. Donc... On quitte. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à pêcher beaucoup ? On va dire, au 19e est quand même un moment important. La ressource se raréfie. Et les pêcheries deviennent moins efficaces. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien avoir en tête, hein, quand on pense à la Bretagne d'aujourd'hui. Si on prend les estimations faites à l'échelle de l'Atlantique Nord, je ne dis pas, ce n'est pas le détail de chaque baie bretonne, mais globalement, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, il y avait à peu près 10 fois plus de poissons dans l'eau qu'aujourd'hui. Donc il faut aller chercher plus loin. Et ce qui tombait dans les pêcheries assez facilement n'est plus là ou beaucoup moins là. Quoi. Puis il y a eu autre chose, c'est qu'il y avait des lois de privatisation pour faire des pêcheries. Et le droit français a évolué, c'est le domaine public maritime. Il faut être concessionnaire, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Quoi. Donc il y a eu une tendance face à ces difficultés d'usage ou à une démocratisation ou une républicanisation de l'usage, les pêcheries ont perdu un peu de leur possibilité de développement.
Il n'y a jamais eu de pêcherie nationale, il y aurait pu.
Non, il n'y a pas eu de pêcherie nationale, c'était souvent d'ailleurs sous le contrôle du clergé plutôt, quand on remonte un peu loin.
Quelles sont les autres ressources qu'on a utilisées, qu'on n'utilise plus pour des questions de raréfaction ?
Alors, je pense qu'elles sont heureuses. On aurait pu parler, enfin, on pourrait parler longuement du sel. Le sel est intéressant parce que le sel, c'est un peu comme pour les pêcheries. Ça commence à la préhistoire, sans doute. C'était le seul moyen de conserver de la matière biologique hors des attaques bactériennes, etc. Donc, le sel, c'est une histoire très longue en Bretagne. Hein. On a produit du sel un peu partout avec différentes méthodes, pas forcément des marais salants, hein, parfois d'autres méthodes, par le feu, notamment par l'évaporation. Il y a eu énormément de... Donc le sel, c'est un vrai sujet, mais la Bretagne a été un peu disqualifiée quand, pour des hauts rendements, il fallait chercher du soleil un peu dans le sud, et la Bretagne a perdu ses grandes productions de sel. Enfin, la Bretagne. c'est pas vrai, parce qu'à Guérande, ça a quand même bien continué, mais enfin, le reste de la Bretagne a perdu ses productions de sel. Ça, c'est une matière importante qui fait toute une histoire de l'économie, d'ailleurs, puisque même certains pensent que les grandes cités mégalithiques de Carnac ont fondé leur richesse sur la production du sel. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important. Mais si on pense à d'autres sources un peu
mais
du type...
Mais par contre, le sel, on ne l'a pas arrêté parce qu'il s'est raréfié, il est toujours là.
Le sel est toujours là, il n'y a pas de problème, la mer a toujours autant de sel. Il y a peut-être des questions d'espace, justement. On revient sur cette question du domaine public. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut n'importe où. Et puis, d'autres ont été beaucoup plus efficaces et économiquement plus rentables que les Bretons pour le faire. Non, je pense qu'il y a d'autres matériaux dont on ne pense pas toujours et qui sont essentiels pour cette question littorale. C'est tout ce qui va permettre d'enrichir les sols. Je pense évidemment au goémon, mais aussi le merle. Hein, le merle qui est une algue aussi, hein, qui est une algue calcaire, hein, mais... Finalement, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est la partie minérale, le calcaire.
C'est comme un corail, un peu, on peut dire.
On appelle le corail. Sauf que le corail est animal et le merle est végétal. Donc, c'est quand même deux mondes bien différents. Mais effectivement, ça a cet aspect. Et puis, ça vit en colonie. Donc, ça peut rappeler un peu le corail. Et puis, il y a tout ce qui est sable coquillé. Le sable qui est formé de fragments de coquillages est très intéressant pour le sol. Et donc, ça a été une ressource considérable. On a amené tout ça vers l'intérieur de la Bretagne, sur la côte, bien sûr, mais plus loin. Et on a créé un véritable sol riche. On a entretenu un sol avec du goémon, avec du merle, avec du sable coquillé. Et ça a été une activité extrêmement importante qui a induit la mise en place de cales, de digues, de moyens de débarquement. Port-Launay, pas loin d'ici, c'était le port de débarquement de tout ça qui a enrichissé le sol breton. Donc ça, c'est une matière très importante avec un virage très fort lorsque ça intéresse moins. Parce que d'une part, il y a d'abord les engrais qui nous viennent du Chili par les clippers, ça commence comme ça, et puis ça finit par la chimie industrielle de l'après-guerre. Mais ce lien intermère et cette ressource marine qui est venue dans les terres, ça a été vraiment... Et puis voilà, et puis il y a tout le reste, bien sûr.
Puis maintenant, c'est interdit, en revanche, quasiment.
Le merle est protégé. Hein. Clairement, voilà. Le merle, quand on sait que c'est probablement l'habitat marin le plus biodivers, une biodiversité extraordinaire dans le merle, on a arrêté. Oui, effectivement, on a arrêté, on le laisse reprendre place. Il est toujours attaqué, notamment par certains outils de pêche qui passent dessus pour chercher autre chose que du merle, mais qui font aussi des dégâts. Je pense aux dragues, par exemple, qui passent sur les bancs de merle.
Mais notre auditoire pourra réécouter les émissions qu'on a faites sur le merle. On en a fait. Alors, un exemple de ressource qui s'est, on va dire, épuisée dans une certaine mesure et ça a été compensé par des progrès techniques, c'est l'huître.
Alors l'huître, oui, l'huître, c'est vraiment très intéressant. Alors quand on parle d'huître dans l'histoire, on parle de l'huître plate, bien évidemment, puisque c'est la seule espèce autochtone de Bretagne, d'origine, depuis la nuit des temps, depuis les temps géologiques, c'est l'huître plate. Et ce n'est que très récemment, enfin, à cette échelle-là, qu'on a apporté, dès la fin du 19e et au 20e, l'huître creuse. Donc là, je vais vous parler de l'huître plate, c'est que l'huître plate, effectivement, ça a été une ressource considérable. Et la mémoire l'a un peu oubliée, parce que si on prend par exemple la rade de Brest, qui est bien proche de nous, la rade de Brest, le 19e est marqué par l'huître plate. L'espèce qui fait la richesse de manière extraordinaire de la rade de Brest, c'est l'huître plate. Des centaines de navires, des rapports financiers extrêmement intéressants, et on pêche l'huître plate.
Ah oui, on la pêche vraiment, quoi.
On la pêche, on la drague, et des centaines de bateaux vont draguer l'huître plate, et c'est l'espèce, il n'y en a pas d'autre, c'est l'espèce qui fait la richesse jusqu'à un moment, on va dire deuxième moitié de ce 19e siècle, où on s'aperçoit qu'on a détruit la ressource. L'intensité de pêche avait beau être des voiliers avec des dragues assez sommaires, ils ont réussi à force de surexploitation à détruire l'habitat de ces huîtres plates. Alors, on avait du mal à l'interpréter, c'est ça qui est intéressant de regarder l'actuel, ce que la recherche nous dit. On s'aperçoit aujourd'hui que les huîtres plates, en fait, et c'est des découvertes récentes des collègues ici, océanographes à Brest, que l'huître vit, construit un récif dans lequel elle vit. Et elle construit son récif, elle s'empile, beaucoup d'autres espèces s'associent, les jeunes viennent se coller dessus, ça forme un récif. Et lorsqu'une drague passe sur un récif d'huîtres plates, on le détruit pour, je dirais pas pour toujours, mais pour des décennies de reconstruction lente du système.
Voilà, c'est ça,
Et donc, on comprenait pas, les historiens comprenaient pas comment ça se fait que l'huître, alors qu'on a arrêté la pêche à un moment qu'elle n'avait plus, elle ne revient pas. Mais c'est parce que l'habitat était détruit. Donc ça, il y a toute une histoire qu'on peut refaire par la connaissance actuelle. On apporte des éléments qui font que l'histoire est toujours en création et en révision. Et c'est ce qu'on fait sur les huîtres plates. Et ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est que la coquille Saint-Jacques, l'emblème de la rade de Brest, aujourd'hui, c'est depuis toujours. En fait, elle arrive après l'huître plate. Alors, est-ce qu'elle prend la place parce que l'huître avait été surexploité ? Toujours est-il qu'on la voit apparaître 1875, fin 19e, on va dire, elle commence à devenir une ressource. Et les bateaux qui faisaient de l'huître se mettent à faire de la coquille Saint-Jacques. Et on aura ce développement au 19e, la grosse moitié du 19e où ça va bien marcher, avec les côtres coquillées, etc. Et puis, au retour de la guerre, on pêche trop. Un hiver froid qui n'ajoute rien au problème. Et en 62, c'est la fin de la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, c'est 90 ans d'histoire, pas plus. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et pourtant, c'est resté l'emblème absolu.
Et c'est sans doute plus difficile à cultiver que l'huître, la coquille. Quoi.
Alors,
c'est ça aussi.
Ouais, alors après,
parce que l'huître, on a résolu le problème, entre guillemets. Quoi.
Alors, sur l'huître, on a trouvé une autre huître, l'huître creuse. D'abord, ce qu'on a appelé l'huître portugaise, puis c'est une japonaise, en fait, d'origine, hein, qu'on a aujourd'hui. Donc, on fait encore un peu d'huître plate, mais c'est surtout de la creuse et on espère que la plate puisse un jour redémarrer vraiment. Il faut la laisser tranquille, il faut restaurer les habitats. Ça, c'est quelque chose possible, hein, qu'on commence à savoir faire. Et la coquille Saint-Jacques, bah, face à l'effondrement de la coquille Saint-Jacques, c'est une autre démarche qui est quand même exemplaire, je dirais unique en Europe. C'est que les pêcheurs se prennent par la main, se mettent au travail et créent une filière, on va dire, où ils produisent des petites coquilles Saint-Jacques qu'ils vont semer, qu'ils vont laisser grandir.
Dans
et
le
vont
milieu naturel.
Dans le milieu naturel, qu'ils vont semer. C'est une forme d'aquaculture extensive, on utilise l'espace. Et puis ils vont la semer, 2 ans, 3 ans plus tard, ils vont la pêcher. Et ça, c'est ce qui se passe en Rade de Bresse, et c'est absolument unique. Et c'est, je pense, insuffisamment connu, je dirais, parce que vraiment, c'est une forme de révolution. C'est-à-dire que des pêcheurs, chasseurs, d'accord, passent une espèce de jardinage, d'agriculture, petite agriculture. C'est ce qui s'est passé sur le monde terrestre il y a quasiment 10 000 ans. C'est-à-dire que voilà, c'est une espèce de révolution néolithique qui se fait en mer.
Mais est-ce qu'il y aurait quand même, est-ce que dans l'histoire, ce passé maritime, est-ce qu'il y a eu un exemple de gestion de la ressource raisonnée? Enfin, est-ce que j'ai l'impression que les humains, à chaque fois, ils épuisent et puis ils essayent de réparer, quoi. Enfin...
Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Et dans ce livre et dans d'autres lieux, on réfléchit sur cette amnésie, en fait. On refait les mêmes bêtises régulièrement et on ne profite pas de l'expérience passée. Ce livre a l'ambition... Restons modestes, mais l'ambition de justement refaire de la mémoire, refaire de l'histoire commune et ne pas toujours recommencer. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui si on prend des exemples qui marchent bien? Je pense qu'on peut dire que aujourd'hui, en Iroise, la récolte des algues est bien régulée. On arrive à conserver des zones sanctuarisées, des zones de pêche. Je pense que c'est bien discuté. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Un autre exemple quand même, dont on peut être assez fier, c'est la coquille Saint-Jacques. Alors, je ne dis pas en Rade de Brest, non, mais baie de Saint-Brieuc et Manche. Et là, les pêcheurs s'organisent bien. Ils ne sont pas à l'abri d'effondrements naturels, mais ce qu'ils font, avec ce qu'ils ont, ils le gèrent bien. Mais bon, ils ne sont pas à l'abri d'aléas.
Ils veillent.
Oui.
Voilà, ouais.
Oui. Mm-hmm.
Et donc là, on a parlé aussi beaucoup, c'est vraiment un thème transversal de ce livre dont je redonne le titre, Littoral, passé, futur de la Bretagne, du 15e au 21e siècle, c'est la relation terre-mer. Et on se rend compte dans le livre que finalement, les Bretons, ils ont toujours été un peu pêcheurs, un peu paysans, et que c'est très récent, cette séparation nette entre la terre, la mer...
Je crois vraiment, et là c'est mon collègue Gérard Le Boydec qui l'explique extrêmement bien dans l'ouvrage. Globalement, on était jusqu'au début du XXe siècle, on était pêcheurs, agriculteurs. Ça pouvait dépendre des saisons, on pouvait être pluriactivité au niveau individuel. Moi, je suis pêcheur au printemps parce qu'il y a de la sardine. Je suis agriculteur le reste de l'année. Mais aussi dans une famille, on pouvait avoir des enfants qui étaient pêcheurs, d'autres qui étaient agriculteurs, éventuellement qui travaillaient ensemble. Celui qui était pêcheur ramenait du merle pour celui qui était agriculteur, etc. Donc ça, c'est la généralité. En fait, on était pluriactivité. Et puis les choses changent. On commence à avoir des spécialisations plus fortes au XXe siècle, etc. Et le monde commence à se séparer. Les mondes de la terre et de la mer. Et le moment qui est sans doute assez fatal, c'est le retour de la guerre, on va dire l'après-guerre, où la révolution agricole qui se met en place, avec notamment tous ces apports de la chimie, chimie qui est issue des technologies militaires, hein, de la guerre, hein, la production de nitrate. Mais cet apport-là va créer quelque chose une rupture, c'est-à-dire que l'agriculteur n'est plus intéressé par les amendements marins, le désintérêt pour le goémon, désintérêt pour le merle, désintérêt pour les sables coquillés. Donc, on est dans la chimie. Et vu de la mer, le pêcheur ne voit le bassin versant, ne voit les champs que comme des émetteurs de choses embêtantes, de polluants, de marées vertes, de sédiments. Donc, ce qui était une unité devient vraiment une forte rupture. Et là, on a un enjeu d'avenir extrêmement important. C'est reconstruire un continuum humain de la terre et de la mer. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est peut-être l'avenir breton qui va se jouer là-dedans. Il faut réconcilier les communautés.
Oui, et puis tout ça, c'est fait sur fond de mondialisation aussi. Donc
C'est clair, on y est encore. Hein. On est loin d'avoir réussi cette réconciliation. Mais quand c'est un ensemble, quand on voit la Bretagne aujourd'hui, quand on prend ces grands centres portuaires, on va prendre Brest et Lorient, ce sont des ports d'importation. Et on s'aperçoit que dans les importations, une grande partie de ces importations, c'est du soja en provenance, pour l'essentiel, du Brésil. Donc, du soja qui vient du Brésil, dans des contextes de production largement discutables, et que l'Europe, d'ailleurs, remet en question. Hein. L'Europe voudrait des labellisations quand on importe du soja. Donc, on a ces ports importateurs pour alimenter une agriculture industrielle qui va produire et qui va exporter l'essentiel de ses productions. Hein. Donc, c'est comme si le bassin versant était une grosse entreprise avec ses entrées et ses sorties. Mais le problème, c'est qu'il y a des fuites. Et les fuites, c'est ce qui sort des champs parce qu'il y a un excédent de lisier, un excédent de produits issus de cette agriculture industrielle qui va finir dans nos ruisseaux, dans nos eaux côtières, les algues vertes. Je pense que tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Et en raccourci, nos algues vertes sont au cœur de la mondialisation actuelle. Nos algues vertes, si on allait regarder l'azote qui les compose, l'azote est un composé évidemment essentiel qui vient par la nitrate, l'azote des algues vertes vient en partie de la déforestation de l'Amazonie. Quand vous êtes en Bretagne à marcher en algues vertes, pensez que vous êtes en Amazonie.
Mmh. Donc c'est pas tout bénéfice, c'est tout déficit.
C'est tout déficit. Déjà, il faut reconstruire vraiment quelque chose de soutenable. Ce schéma est totalement insoutenable.
Ouais. Et donc, qu'est-ce que le scientifique de la nature que vous êtes, Yves-Marie Pollet, fixerait comme priorité?
C'est une question difficile.
Pour le futur.
Ouais, je comprends bien. Quel futur? Je crois qu'il va falloir réussir à ne pas se faire submerger par une activité ou par une autre. Je crois que le littoral breton a sa valeur dans la diversité, dans la diversité de ses populations, dans la diversité de ses activités. Je ne pense pas si c'est un avenir, il n'est pas radieux que la Bretagne devienne simplement une aire de loisirs, une aire de tourisme. On ne peut pas vivre 3 mois par an. Il faut des vrais réseaux sociaux, il faut des gens qui vivent vraiment, qui communiquent, qui sont fiers de leur production. Bon, donc, il faut du tourisme, il faut être fier de la Bretagne, il faut accueillir, mais je pense avec une petite partie. De la même façon,
de toute façon, il faut bien les nourrir, ces touristes. Et puis, ils aiment bien aller au marché, acheter des... Ben, je ne sais pas, il n'y a plus de pommes de terre en presqu'île de Crozon, mais...
Il faut être heureux d'accueillir et de proposer des choses et de parler de son pays. Et même notre ouvrage, je pense, est aussi fait pour ceux qui nous visitent, qui interprètent ce qu'ils voient. Enfin, je pense qu'il faut accueillir. Il ne faut pas non plus une agriculture qui décourage tout le monde en disant la Bretagne, c'est les algues vertes, c'est les pesticides. Il faut en sortir. C'est un très mauvais schéma. Il faut en sortir, il faut réinventer une nouvelle agriculture en Bretagne. Je pense que tout le monde est clair là-dessus et tout le monde est en train de bouger pour ça. Puis il faut donner beaucoup de valeur à toutes ces activités, la technologie pour la mer, la plaisance en termes d'expertise dans la construction des navires de course, etc. Et puis je pense qu'on a quelque chose qu'il faut bien regarder en face, qui est finalement la contribution de la Bretagne à un monde durable, c'est l'éolien.
Et oui, parce qu'on n'a pas encore parlé des énergies marines, renouvelables, qui ne datent pas d'hier, le rappeler déjà.
Je crois que c'est aujourd'hui, il faut considérer que le vent, c'est notre matière première. On doit, avec notre matière première, contribuer à un monde durable, à un monde peu émetteur de gaz à effet de serre. Et l'éolien doit être vraiment pensé dans ce contexte-là et dans une épaisseur d'histoire, comme vous le citiez. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire du littoral, eh bien, depuis la nuit des temps, on utilise l'énergie marine renouvelable. La marée qui monte et qui permet d'aller porter des fardeaux très très lourds jusqu'à Châtelain, jusqu'à Quimperlé, jusqu'à Morlaix, c'est de l'énergie marine renouvelable. C'est le courant qui monte et qui descend. C'est donc, si on regarde les moulins à marée, évidemment, qui jalonnent toutes nos rivières, c'est de l'énergie marine renouvelable. Si on regarde les moulins avant, il y en avait des centaines sur le territoire breton.
Il
n'y
en avait pas en mer, par contre, je crois.
Il n'y en avait pas en mer, c'est vrai. Mais en mer, on avait le vent dans les voiles.
Ben oui, c'est
donc,
vrai.
On est vraiment, je pense qu'on est une péninsule d'énergie marine renouvelable. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut inscrire, en réfléchissant un peu à l'épaisseur temporelle, inscrire le futur éolien en mer. Et vraiment, la Bretagne a beaucoup à donner au monde. Et je pense que c'est vraiment très intéressant.
Il y a d'autres atouts encore auxquels on n'aurait pas pensé ou auxquels vous penseriez qu'on n'aurait pas développé encore?
Moi, je pense qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Hein. Du côté de l'aquaculture, on a des choses à faire. On a cité tout à l'heure cette espèce d'élevage extensif de coquillages. Je pense qu'on a beaucoup de place sur un jardinage de la mer, vraiment. C'est-à-dire, plusieurs espèces, du goémon, des poissons filtreurs, ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique. C'est-à-dire qu'on est capable d'élever en même temps, dans des mêmes systèmes, dans des mêmes infrastructures, des algues, des ormeaux, des huîtres. Et ça, c'est probablement l'avenir, parce que c'est un système de recyclage, c'est vraiment tout à fait intéressant. Donc, une aquaculture durable, et sans doute une pêche très sélective de poissons de haute qualité, comme ligneur du ratissin et d'autres savent le faire. Mais là, du côté de la mer, il y a vraiment des choses à faire. Donc, l'éolien, et puis un éolien qui peut se mettre d'accord avec la pêche. Et on n'y est pas encore. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt conflictuel. Mais je pense que la pêche doit réfléchir à ce que l'éolien peut apporter en termes d'aménagement d'espace, de réserve, de pêche particulière, d'élevage marin, tout ce que l'éolien peut nous apporter. Donc là, je pense qu'il y a un champ très important.
Du vent et du jardinage marin, c'est très poétique tout ça. Merci beaucoup Yves-Marie Paulet.
Merci beaucoup.
Je redonne le titre de l'ouvrage édité par le CRBC, Littoral, passé futur de la Bretagne, du 15e au 21e siècle.